Dans une journée aussi politique, il faut bien donner la parole aux élus. Et c'est l'heure de l'interview politique avec Nathalie Perrin-Gibert, la maire du 1er arrondissement de Lyon.
Bonjour Nathalie Perrin-Gibert, merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour.
Vous êtes maire du 1er arrondissement de Lyon depuis 2008 et candidate aux élections législatives qui se tiendront en juin cette année. Donc on a une demi-heure d'interview en votre compagnie. Et j'aimerais d'abord commencer par réagir un peu à l'actualité de cette semaine, avec notamment, j'en parlais dans mon édito politique tout à l'heure, des déclarations de Marine Le Pen sur le Veldiv. Est-ce que vous pouvez réagir un peu à ce genre de propos ?
Oui, alors c'est évidemment des propos insoutenable et indigne. Simplement, je dirais que Madame Le Pen a essayé de revêtir des habits de candidate, on va dire, respectable. Et quand elle se laisse aller à un naturel, eh bien, il revient au galop. Et on voit bien que ce qu'est le Front National, c'est un parti raciste, xénophobe, et puis un parti qui refuse de tenir compte de l'histoire. Et surtout, c'est un recul par rapport à la reconnaissance de la responsabilité de l'État de Vichy, de l'État français, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le président Chirac qui, à l'époque, avait reconnu la responsabilité de l'État français. Il est hors de question d'avoir ce type de retour en arrière. C'est même une honte pour notre pays.
Voilà. Et on a même diffusé l'extrait du discours de Jacques Chirac tout à l'heure. On reste un peu dans la campagne présidentielle. La dernière semaine a été émaillée par des nombreuses attaques de journalistes, notamment dans les meetings de François Fillon, des attaques de la part de militants, et François Fillon qui a condamné, sans condamner ces attaques, en disant que, à demi-mot, que les journalistes l'avaient un peu bien cherché. Comment vous sentez un peu ce climat de rapport de force systématique, de défiance ?
Alors c'est un climat délétère, et c'est un climat délétère qui rend compte de l'état de notre démocratie. Je dis souvent que notre démocratie représentative est en panne. Là, c'est de notre démocratie tout court. Une démocratie va bien quand ses contre-pouvoirs vont bien. La presse est un contre-pouvoir essentiel, et on voit que des candidats s'en prennent à ce contre-pouvoir, n'en veulent pas, et donc en tout cas le remettent en cause, et ça montre leur conception de la démocratie. Et donc c'est plus qu'inquiétant, et ça montre pourquoi il ne faut pas voter M. Fillon aux élections présidentielles. C'est un danger pour notre système démocratique, comme Mme Le Pen l'est.
D'accord. Et donc là, je passe de droite à gauche. Que pensez-vous de l'état du Parti socialiste que vous avez quitté il y a quelques années, notamment suite aux nombreuses défections et désistements de personnalités qui quittent le camp de Benoît Hamon pour aller grossir les rangs d'Emmanuel Macron. Et question qui suit, est-ce que vous pensez qu'une gauche, entre guillemets, social-démocrate, à la française, peut disparaître, prise entre la gauche dite radicale, incarnée par Jean-Luc Mélenchon, et une sorte de centre démocrate à l'américaine, désormais complètement assumée?
C'est tout à fait ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que le Parti socialiste est en train de devenir ce que vous venez de qualifier de centre démocrate à l'américaine, et je suis assez d'accord avec votre analyse. Le Parti socialiste était ma famille politique, j'y suis restée de nombreuses années. J'ai quitté cette famille, ce n'est pas rien de quitter une famille politique, je l'ai quittée après 4 ans de secrétariat national. J'étais secrétaire national au logement auprès de Martine Aubry à Solferino, donc je l'ai vu fonctionner de l'intérieur. J'avais cet espoir attaché à cette famille qu'avec l'équipe de Martine Aubry, nous réussirions à transformer de l'intérieur ce parti, en refaire un parti déjà de pensée, de réflexion politique, et puis un parti qui a pour horizon politique non pas seulement les échéances électorales, mais un vrai projet de transformation sociale, économique, écologique de notre pays. Et on a bien vu que même avec le caractère que l'on connaît, Madame Aubry, même avec tout son investissement et la force de travail qu'elle a pu y mettre, elle s'est fait rattraper par l'appareil, au point d'en quitter le premier secrétariat national pour rejoindre Lille. Et c'est ce moment où j'ai compris que ce parti était irréformable de l'intérieur, qu'il était vraiment devenu cette machine tenue par des élus, est tenue aussi par des personnes qui travaillent avec les élus et qui envisagent la politique comme une carrière politique. C'est-à-dire qu'ils entrent au Parti socialiste comme ils entreraient dans n'importe quel autre parti, simplement pour essayer de s'y faire une place, sans idéaux, sans conviction. C'est devenu cette machine-là. Et ce parti, les élus n'ont pas du tout envie de le réformer puisqu'ils en vivent de ce fonctionnement. Cette crise du parti est quelque part normale. Elle était attendue. Elle vient même un peu tôt par rapport à ce que certains prévoyaient, mais certainement le quinquennat de M. Hollande et les élections présidentielles ont accéléré le mouvement. Donc oui, ça devient un parti, démocrate à l'américaine, soit tout simplement un parti de centre, un parti centriste, centre-droit même. Voilà.
Mais pour vous, ça tient aux personnes ou ça tient au fait que pendant très longtemps, le PS s'est un peu caché derrière son petit doigt au niveau idéologique en essayant de tenir un peu de courant sans jamais trancher?
Oui, il y a ça au sein du parti, mais c'est vraiment aussi le fait de l'organisation du parti. C'est vraiment l'organisation qui veut cela. Et c'est aussi cette course à l'élection. C'est-à-dire qu'à un moment où, quand on vise toujours des réélections et être élu partout, tout le temps, on est prêt à renier ses idées, ses idéaux. On va aller un petit peu au gré de l'opinion, au gré de ce que veulent entendre les Français, les Françaises, en oubliant la pensée, en oubliant la pédagogie, en oubliant l'effort aussi de convaincre. Et comme ça, on se dirige vers un petit peu, un centre dont on ne sait pas trop. Enfin, c'est la formule de M. Macron, hein, ni quelque chose d'assez indéfini. Oui, il va falloir reconstruire à gauche. C'est l'enjeu qui nous attend pour les années à venir. C'est à la fois une crise, c'est à la fois passionnant. C'est-à-dire qu'on a tout à rebâtir avec des hommes et des femmes de gauche, avec des écologistes, avec des citoyens, citoyennes. Ça va être le moment de reposer les fondations d'un parti qui se veut à gauche, qui se veut démocrate également. Voilà, donc oui, c'est cela qui nous attend. C'est ce qui rend aussi mon projet de peut-être futur député passionnant. C'est comment, à l'Assemblée, je peux contribuer aussi à cette refondation-là.
Et donc, je terminerai donc ce point d'actualité sur les questions internationales. La semaine dernière a été marquée par des bombardements en Syrie, lancés par Donald Trump. Suite à l'attentat au gaz des populations par supposément Bachar al-Assad. Vous êtes assez connu pour votre engagement auprès de la Syrie, notamment en termes de manifestations que vous avez lancées. Quel regard vous portez là-dessus ?
Alors d'abord, ce qui se passe en Syrie, quand j'en discute avec des associations qui envoient du personnel là-bas, je discutais par exemple Place Bellecour l'autre jour avec le responsable d'Handicap International, et il me disait que c'était du jamais vu. C'est-à-dire que ce qui se passe en Syrie, c'est un massacre, c'est un génocide d'une population de femmes, d'enfants, avec des blessures atroces, des actes de guerre atroces. L'usage des armes non conventionnelles et chimiques en est encore un exemple. Ça fait 6 ans que ça dure. C'est-à-dire qu'à un moment, les forces rebelles et la population civile syrienne étaient en passe de faire tomber Bachar. C'était en 2015. Et puis, Poutine et la Russie sont entrés en jeu, l'Iran également, et le conflit a rebasculé en faveur de Bachar el-Assad. Tout s'est joué finalement entre 2013 et 2015, où on a laissé cette population syrienne en prise entre d'un côté Daesh, de l'autre côté Assad. Et quand Poutine est arrivé, évidemment, le rapport de force était impossible à tenir pour cette population. C'est une population syrienne que nous avons abandonnée, que l'ONU a abandonnée, que les États-Unis a abandonnée, puisque le président Obama avait fixé une ligne à ne pas dépasser. Et la ligne a été dépassée en 2013 et finalement les États-Unis n'ont pas agi. Voilà, j'ai très peur, évidemment, parce que Donald Trump est quelqu'un d'imprévisible. C'est une politique internationale à coups de menton, comme on dit. On montre les forces, on le voit également avec la Corée du Nord. Enfin, c'est une situation internationale très préoccupante. Mais on en est tous responsables, finalement, d'avoir laissé à un tournant du conflit, en 2015, ces interventions sans suite.
Très bien, je vous remercie pour ces réactions face à l'actualité. On reste dans l'actualité, mais plus précisément sur la question de la présidentielle qui arrive la semaine prochaine. Le premier tour est dimanche prochain. Je crois que Maëlys a quelques questions à vous poser.
Oui. Alors, je crois que vous avez donné votre parrainage de maire à la candidate de la plateforme laprimaire.org, Charlotte Marchandier,
je crois.
Tout à fait. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce choix ?
Alors, ce choix va déjà avec mon évolution personnelle et l'évolution de l'association que nous avons fondée en 2011 avec Renaud Père, actuel donc directeur de l'IEP, mais également président du GRAM, un groupe de réflexion et d'action de la métropole. Ça coïncide avec mon mouvement aussi de départ du Parti Socialiste. Nous voulions recréer sur le territoire de Lyon et de la métropole un lieu où nous pouvions parler, réfléchir politique avec différents acteurs du territoire, et notamment les habitants, et notamment les citoyens, avec cette idée que au niveau national, mais au niveau local, la politique est confisquée. La politique est confisquée par des professionnels de la politique, par les partis dont on a parlé tout à l'heure. Et il y a cet écart qui se creuse de plus en plus avec les citoyens, citoyennes. On a une crise de la démocratie parce que les élus ont oublié qu'ils avaient un mandat, c'est-à-dire que des électeurs leur ont fait confiance. Ce mandat n'est jamais acquis et donc il faut toujours rendre compte. Et donc, fort de ces différents constats, on s'est dit on va essayer de faire de la politique de manière différente, localement, parce qu'on pense aussi que la démocratie, la politique se réinvente toujours localement et sur la base des territoires. Et donc, on a fondé ce GRAM. Et en 2014, on s'est présenté avec cette étiquette associative. Et bon, nous avons remporté par exemple la mairie du premier. Mais nous n'étions pas seuls. Il y a d'autres exemples. Par exemple, la mairie de Saillant, dans la Drôme, pas très loin d'ici, a été remportée aussi par une liste citoyenne. Et puis en 2015, il y a eu les élections régionales, avec cette progression du FN dans différentes régions très inquiétantes. Et les citoyens ont voulu réagir et ont dit on ne peut pas laisser les choses aller ainsi et nous devons reprendre en main le politique. Et des groupes citoyens se sont créés à de nombreux endroits en France. Et ces groupes citoyens aujourd'hui se rencontrent régulièrement. On a un label qui s'appelle par exemple Label Démocratie, qui essaye un petit peu de fédérer les mouvements citoyens et de monter ce qu'on appelle un archipel citoyen. C'est-à-dire avec une reconnaissance de chaque spécificité des mouvements sur leur territoire, mais essayer de se fédérer pour être plus fort nationalement. Et pour moi, la candidature de Charlotte Marchandise émane de ce mouvement-là, de cette histoire-là, qui est récente. Hein. Je vous parle, vous voyez, 2011, ça fait quelques années que ce mouvement s'organise, un peu comme Podemos s'est organisé en Espagne hein, aussi. Ce sont aussi des hommes et des femmes qui ont voulu reprendre le politique. Ce que je trouve intéressant dans cette candidature, c'est que ça permettait de mettre en lumière cette aspiration citoyenne aux politiques. Et puis, je trouve intéressant de dire, oui, les mouvements citoyens, c'est essentiellement des mouvements locaux, parce qu'on peut agir en proximité, mais il doit y avoir une pensée nationale. On doit réfléchir à comment renouveler notre démocratie, renouveler la politique, comment travailler sur nos institutions. La question institutionnelle est fondamentale, et ça se porte au niveau national. D'où l'importance d'avoir une candidature à la présidence de la République, d'où l'importance aussi d'avoir des députés qui vont porter ce langage, cette parole, cette ambition à l'Assemblée. Donc, vous voyez, soutenir Charlotte Marchandise, ça faisait partie de ce tout-là. Et puis, c'est une manière aussi de renouveler. Charlotte, c'est quelqu'un qui ne prétend pas tout savoir, qui ne prétend pas parler parfaitement, comme tous les hommes et femmes politiques formatés avec les éléments de langage, qui fait de la politique comme elle est, avec du sérieux. Elle a fait un tour de France extraordinaire. En 2 mois, elle a rencontré nombre d'associations, nombre d'élus. Voilà, c'est vraiment une femme déterminée, sérieuse. Mais en même temps, elle assume ne pas être une professionnelle de la politique. On savait que ce serait une candidature de témoignage, mais j'aurais espéré qu'elle recueille les 500 signatures et qu'elle puisse être présente aux côtés des autres candidats dans le débat.
C'est vrai que face à des candidats comme Jean Lassalle, Asselineau, Cheminade, c'est vrai que ça peut vous faire un peu mal au cœur, je pense, d'avoir
Ça me fait totalement mal au cœur, mais ça prouve que notre système est verrouillé encore. Et c'est bien ça l'enjeu, c'est de le déverrouiller. Voilà.
Mais c'est aussi le format de l'élection présidentielle avec un seul candidat et la personnification en fait, du président qui fait
Alors, tout à fait. On est dans un régime d'hyper-personnalisation, dans un régime d'hyper-présidentialisation. C'est la Ve République qui le veut, ça, puisqu'elle a été construite autour d'un homme, le général de Gaulle, à un moment très particulier de l'histoire de notre pays. On voit évidemment qu'il faut faire évoluer ces institutions-là. La Ve République, notre Constitution, ne correspondent plus au fonctionnement de la société aujourd'hui, au début du XXIe siècle. Donc bien sûr qu'il faut avoir ce travail sur nos réflexions, sur nos institutions, pardon, et il faut déverrouiller ce système-là.
D'accord.
Et juste pour dire que nous avons, la gauche, une responsabilité particulière en la matière, puisque l'inversion du calendrier électoral est venue renforcer cette hyper-présidentialisation. On le voit bien, on parle très peu des élections législatives, même on parle très peu des programmes des candidats. On est quand même beaucoup... alors, il faut dire que l'actualité nous y aide aussi. On est évidemment sur les histoires de corruption, mais ça, c'est normal. Hein, des hommes sont corrompus, il faut le dénoncer. Mais on est beaucoup aussi sur des postures, sur des petites phrases, sur le commentaire de tel ou tel est plus ou moins charismatique, etc. Voilà, et on est bien loin du fond et des idées, hélas.
Bah alors ça rejoint un peu ma question suivante, mais est-ce qu'il y a un candidat qui a recueilli les 500 signatures dans lequel vous vous reconnaissez plus, et qu'est-ce que vous pensez du niveau de débat qui est souvent jugé médiocre en fait?
Alors le niveau de média et le niveau du pardon, débat, du débat est effectivement très médiocre. Il est parasité par les affaires. Il dénote tout simplement de l'état de santé de notre démocratie. Hein, j'y reviens. Notre démocratie va très mal. Notre système politique va très mal. Il y a une crise. Du coup, il est très difficile que des candidats émergent de ce climat-là. Moi, je suis très partagée. J'aimerais que la gauche soit intelligente et soit unie face à des candidatures qui sont inquiétantes pour moi. Évidemment, la candidature de Madame Le Pen, parce que si Madame Le Pen prend le pouvoir, il sera très compliqué de le reprendre ensuite de manière démocratique. On le sait bien qu'il va y avoir une confiscation encore plus grande de nos institutions de la démocratie. N'oublions pas que nous sommes en état d'urgence avec des lois, avec un climat exceptionnel. Et moi, ça ne me plaît pas du tout de savoir qu'une candidate d'extrême droite pourrait être présidente de la République sous un état d'urgence qui lui donne des pouvoirs exceptionnels. On a un candidat corrompu à droite et puis qui porte une vision extrêmement réactionnaire d'un point de vue sociétal et social, avec un programme économique inquiétant également, qui va vers une casse encore de nos services publics et des possibilités de solidarité dans notre pays. Ensuite, on a un candidat dont on ne sait pas vraiment où il se situe, ou alors du moins on le voit de plus en plus. Quand je lis que M. Macron est en train de négocier pour les législatives avec M. Estrosi, je trouve ça horrible pour la gauche, dont il est quand même issu. Il est quand même issu d'un gouvernement socialiste. Et après, il nous reste, je parle des candidats essentiels, et je suis désolée pour les autres candidats et candidates, mais là, ce matin, on est obligé aussi d'aller un petit peu vite. Après, restent M. Mélenchon et M. Hamon, et bien sûr que j'aurais aimé, je pense, des milliers et des millions de Français, qu'un accord soit trouvé entre ces deux hommes pour que nous soyons unis face à ces dangers. Après, il y a plein de points communs, notamment en matière de politique intérieure. Il y a aussi des différences. Par exemple, sur la question du travail et notamment la proposition de revenu universel, on voit bien que les propositions ne sont pas identiques. Et puis, bien sûr, sur le côté international, la vision de l'Europe et puis la vision des relations, notamment avec M. Poutine, mais aussi face à M. Trump. Je dirais que je me retrouve plus dans les propositions de Benoît Hamon aujourd'hui, dans son style aussi, avec une certaine humanité et humilité également, une volonté de travailler collectivement. Il ne fait pas croire qu'un homme peut tout. Il ne se présente pas comme l'homme providentiel. Mais après, je n'ai aucune confiance dans le système du Parti socialiste qui est derrière lui. On a parlé tout à l'heure des trahisons. Donc voilà, faire confiance à un homme, oui, mais derrière, l'organisation n'est pas là. Donc c'est très compliqué. Après, je ne souhaite pas encourager les citoyens et citoyennes à voter utile, parce que c'est quoi, voter utile? C'est faire confiance à des sondages dont on ne sait pas trop leur niveau de justesse. On connaît bien les marges d'erreur, et on l'a vu lors des dernières élections, et aussi lors de l'élection aux États-Unis. On sait les groupes, comment les groupes de presse sont entre les mains aussi de quelques puissances financières. Donc j'ai peur qu'en disant « votons utile », on aille vers là où on veut nous amener. Je crois qu'il faut un vote de conviction. Je crois qu'il faut voter au premier tour en son âme et conscience, pour ce qui, en lisant les programmes, pour ce qui nous semble bon pour nous, notre société, nos enfants demain. Et puis on verra au deuxième tour. Mais ne pas anticiper et faire des calculs. Voter en conviction et par rapport à des propositions écrites que nous font les candidats dans leur profession de foi.
On va maintenant passer aux législatives, puisque vous êtes candidate aux législatives de juin. Vous avez déjà répondu partiellement à la question « pourquoi ?». Il y a une question qu'Internet a soulevée pour moi, puisque j'ai lu sur Internet que vous seriez potentiellement soutenu par le Parti socialiste aux élections législatives, suite au départ du candidat investi par le Parti socialiste vers Emmanuel Macron. Est-ce que c'est vrai déjà ?
Alors, non, ce n'est pas vrai. Je suis une candidate citoyenne. Je resterai une candidate citoyenne avec l'idée de fonder un groupe citoyen à l'Assemblée. Par contre, oui, je veux dépasser les clivages partisans. Je dis souvent que les partis divisent alors que les valeurs rassemblent. Si des partis qui sont à gauche se retrouvent dans les valeurs que je défends en tant qu'élu aujourd'hui à Lyon, en tant que député demain à l'Assemblée, et qui décident, pour me donner toutes les chances de gagner et de porter ces valeurs à l'Assemblée demain, et s'ils décident donc de ne pas présenter des candidats face à moi et disent « ben oui, sur cette deuxième circonscription du Rhône, nous soutenons la candidature de Nathalie Perrin-Gilbert et nous ne lui mettons pas de candidat qui ferait obstacle à son élection », eh bien, tant mieux. Mais je ne veux pas être investie par un parti en particulier. Donc, je discute, et le GRAM surtout discute, le président du GRAM et d'autres discutent avec les représentants des partis de gauche, que ce soit France Insoumise, que ce soit le Parti communiste, que ce soit ELV, que ce soit le PS ou ce qu'il en reste, que ce soit Ensemble. Il y a ces discussions qui se font. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que la gauche gagne sur la deuxième circonscription, ou vous voulez encore enclencher une machine à perdre? Voilà. Donc, si on arrive à se mettre d'accord sur des valeurs et que ces partis me soutiennent, tant mieux. Mais par contre, je ne serai pas investie par un de ces partis.
J'ai pas dit investi, j'ai dit soutenu.
Tout à fait.
Être soutenu sans être investi.
Complètement. Donc j'ai répondu à votre question.
Oui, vous avez bien répondu à ma question.
Merci.
Vous avez aussi un peu parlé sur la question des institutions. On a parlé de l'inversement du calendrier, ce qui fait que généralement on considère que les législatives ne sont que la validation de la présidentielle précédente. Moi, je voudrais parler du statut de député. On en a beaucoup parlé récemment. En mal, sur les questions financières. Qu'est-ce que vous pensez de ce statut un peu bâtard entre l'élu local et le national? Parce que élu dans des circonscriptions locales, mais élu de la nation, avec un régime de financier assez opaque, puisqu'on a beaucoup parlé de l'IRFM, la réserve parlementaire. Comment vous regardez ce système-là?
Alors, pour moi, un député est d'abord un élu ou une élue de la nation. C'est-à-dire qu'un député doit travailler sur la loi et doit travailler au service de l'intérêt général. Après, il doit rendre compte. Il doit rendre compte nationalement, mais il doit rendre compte aussi en proximité et donc face aux électeurs et électrices qui l'ont élu dans la circonscription dont il émane. Je crois que le député, comme tout élu, où la députée, comme tout élu, doit rendre compte. Et donc moi, je suis pour une transparence Je pense que les frais des députés doivent être publiés chaque année. Et moi, je m'y suis engagée. Que la réserve parlementaire, ce n'est pas l'argent du député, comme ses frais d'ailleurs, c'est d'abord de l'argent public. Donc, comme c'est de l'argent public, dire ce qu'on en fait quand ce sont nos frais, eh bien, les publier dans un bilan annuel. Quant à la réserve parlementaire, comme Isabelle Attard le fait d'ailleurs dans sa circonscription dans le Calvados, je veux soumettre cette réserve parlementaire annuelle au vote des habitants et habitantes de ma circonscription. C'est-à-dire, voilà, j'ai 100-130 000 euros de réserve parlementaire, comme tout autre député. Quel projet nous choisissons ensemble de soutenir? Pourquoi vous votez, vous, habitants de la circonscription? C'est un début de budget participatif. Je ne considérerai jamais l'argent public comme mon argent. Donc du coup, c'est normal de rendre compte et d'associer à son utilisation. Et une autre chose que je veux faire en matière d'association des habitants et des citoyens à mon travail, je veux créer un conseil de circonscription des lycéens et lycéennes. Ça veut dire avoir des jeunes de 16 à 20 ans émanant des lycées publics, privés, professionnels, techniques et d'enseignement général de ma circonscription, élus par leur père, en tout cas désignés par leur père ou par tirage au sort, on va voir cela ensemble, et qu'ils puissent travailler la loi, écrire des amendements avec moi pour qu'on puisse ensuite les défendre à l'Assemblée. C'est comment intéresser les jeunes gens à la politique, leur faire toucher du doigt ce qu'est la loi, comment elle peut concerner leur vie au quotidien. Et puis, c'est porter la voix de jeunes gens qui ne votent pas encore, je pense notamment aux 16-18 ans, d'ores et déjà à l'Assemblée, et les représenter déjà.
Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Nathalie Perrin-Gilbert. Il est 8h57. Merci donc d'avoir été avec nous pour cette interview politique.